RCF.
Il est 7h30, l'heure du journal, présenté par Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Deuxième étape pour la réforme des retraites.
Après sa présentation en Conseil des ministres, la proposition de loi arrive en commission aujourd'hui. L'occasion de revenir sur certains amendements déposés par les députés avant une grande mobilisation prévue demain. Escalade de violence sur le territoire israélo-palestinien. Les dirigeants politiques et religieux ont appelé au calme ce week-end après les attaques qui ont fait plus de 17 morts jeudi, vendredi et samedi. Et des consignes pour les bouteilles plastiques en France. Une concertation s'ouvre aujourd'hui avec les professionnels du secteur dans le cadre de la loi anti-gaspillage du gouvernement.
La réforme des retraites commence son chemin au Parlement.
Alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue demain, la bataille des amendements démarre à l'Assemblée nationale. L'ensemble des amendements proposés par les partis de la majorité et de l'opposition doivent être examinés à partir d'aujourd'hui par la Commission des affaires sociales. Plus de 7000 amendements au total, dont la grande majorité a été déposée par la NUPES. Un chiffre conséquent qui est pourtant bien en deçà de celui constaté lors de la précédente tentative de réforme des retraites. En 2020, la France insoumise avait en effet déposé 19 000 amendements, dont 16 000 avaient été retenus. Les explications de Margot Emmerich.
Et si le blocage escompté ne devrait pas avoir lieu, c'est du fait d'un article de la Constitution, le fameux 47.1. Non seulement celui-ci limite les débats dans le temps, à 50 jours, mais les députés d'opposition sont également contraints par une règle intangible, à savoir qu'ils ne peuvent pas présenter d'amendements qui auraient pour conséquence, je cite, « une diminution des ressources publiques ou l'aggravation d'une charge publique ». Plus question donc de déposer ce qu'on appelle des amendements virgule, ces dispositions à la marge ou ne sont modifiées que des mots dans le but de ralentir les débats. Pour le reste, les Républicains, d'abord présentés comme des soutiens de la majorité, ne sont plus aussi unanimes. Le Rassemblement national, quant à lui, annonce qu'il ne fera pas obstruction. Enfin, la majorité présidentielle a elle aussi déposé des amendements sur son propre texte, mais qui devraient aisément être adoptés.
Merci Margot. Et parmi ces amendements, il y en a un qui permettrait aux bénévoles d'associations d'accéder à des trimestres d'assurance retraite dans la nouvelle réforme. Cette proposition faisait déjà partie du projet de loi sur les retraites d'Édouard Philippe en 2020, mais il n'est pas dans celui d'Elisabeth Borne cette année. Pour Alexandre Vincent Day, député de la 7e circonscription du Rhône, appartenant au groupe Les Républicains, cet amendement mérite d'être pris en compte par le gouvernement.
On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une crise du bénévolat et qu'au-delà de ça, vous avez quand même des personnes qui donnent de leur temps aux autres, parfois pouvant aller jusqu'à prendre énormément de temps sur leur vie, parfois même au détriment de leur vie personnelle ou professionnelle. Et le bénévolat et le travail des associations et des bénévoles ne peut pas être remplacé. Il peut pas être remplacé par le secteur marchand, par une entreprise, il peut pas être remplacé par le travail des collectivités ou même de l'État. Et donc en fait, simplement, le but, c'est de pouvoir, dans le cadre de cette réflexion sur les retraites et comment valoriser aussi l'engagement pour autrui, c'est se dire, est-ce que ce sujet-là peut intégrer à un moment une réforme des retraites. Nous avons déposé un amendement qui sera débattu et en commission et ensuite dans l'hémicycle. Il y a en fait un amendement pour intégrer directement cette disposition. Mais ce que l'on souhaite en tout cas, c'est attirer l'attention du gouvernement sur ces questions-là et au moins avoir un rapport sur ces éléments pour qu'on puisse éventuellement l'intégrer plus tard.
En attendant, une nouvelle journée de manifestation se prépare pour demain. Après la mobilisation du 19 janvier dernier, la grève devrait encore être très suivie ce 31 janvier, notamment dans les transports. Des perturbations sont à prévoir dans toute la France, notamment dans le ferroviaire, TGV, TER et RER, mais aussi dans le métro parisien et à l'aéroport d'Orly. Des précisions devraient se faire connaître dans la journée, mais le trafic devrait être fortement perturbé, notamment pour les TGV avec seulement un train sur trois en moyenne.
Une brusque escalade dans le conflit israélo-palestinien.
Jeudi, un raid israélien à Jénine en Cisjordanie a coûté la vie à 9 personnes. Une des attaques les plus meurtrières d'Israël sur le sol palestinien en 20 ans. Vendredi, un Palestinien a tué 7 personnes en représailles devant une synagogue de Jérusalem. À la suite de ces attaques, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a promis une réponse forte, ce qui laisse craindre un nouvel engrenage de violence. Des événements qui ont fait réagir les hauts responsables politiques et religieux ce week-end, Florian Perret.
Ah oui, à commencer par le pape François. Dans son Angélus de dimanche, le souverain pontife s'est dit profondément attristé par la mort d'Israéliens et Palestiniens ces derniers jours. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples, a-t-il déploré lors de sa prière dominicale. Le pape François a ensuite exhorté les dirigeants et la communauté internationale à s'engager pour le dialogue en faveur de la paix. Des réactions politiques en France également. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Benjamin Netanyahou pour lui présenter ses condoléances après l'attaque de vendredi devant une synagogue. Le président français lui a rappelé la nécessité d'éviter des mesures susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence et a exprimé sa disponibilité à contribuer à la reprise du dialogue entre les deux peuples. D'autres réactions se sont fait entendre à l'international, comme par exemple en Russie. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'est également entretenu avec les dirigeants israéliens et palestiniens ce week-end. Le responsable russe les a appelés à la responsabilité maximale pour éviter toute nouvelle dégradation de la situation.
Et à noter aussi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah aujourd'hui et demain pour évoquer des mesures en vue d'une désescalade.
7h35, bientôt des consignes pour les bouteilles plastiques en France.
Une concertation sur le sujet est lancée aujourd'hui et doit durer jusqu'en juin. La secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard réunit autour d'elle les industriels, ONG, collectivités, associations d'élus et acteurs du recyclage. Cette concertation s'inscrit dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020. L'objectif, un taux de collecte des bouteilles en plastique de boissons de 77% en 2025 et de 90% en 2029. Pour éviter un trop grand manque à gagner, les industriels pourraient pousser vers davantage de recyclage. De son côté, Moira Tourneur, responsable plaidoyer à Zero Waste France, entend défendre l'importance du réemploi. Elle sera présente à la concertation tout à l'heure.
Quand on parle de consignes, on parle à la fois de consignes pour recyclage, mais aussi de réemploi. Et donc la question, c'est vraiment qu'on pose cette question du réemploi, parce que si on est censé sortir du plastique à usage unique, comme c'est prévu par la loi d'ici 2040, on ne peut pas tout miser sur le recyclage. Le souci, si on va que vers du recyclage, c'est que derrière, on va mettre en œuvre des investissements pour pouvoir collecter, trier, recycler. Et quand on arrivera en 2040 et qu'on dira c'est fini, le reste de l'usage unique, ce sera compliqué d'en sortir, parce que vu qu'on aura investi, on aura besoin de continuer à produire de la matière à usage unique à recycler. L'enjeu dès maintenant de se poser la question, on met en place des systèmes conjoints recyclage-réemploi, c'est de se dire, le switch sera plus facile, le moment où on en aura besoin, on aura un peu lissé les investissements sur les deux sujets. La question, c'est comment on sort d'un sujet où on est sur du tout recyclage, et donc finalement, quand on dit tout recyclage, on reste tout usage unique aussi.
Des pannes informatiques font des remous au ministère de la Justice. Après plusieurs dysfonctionnements de l'application API, le syndicat de la magistrature est monté au créneau. APPI est un logiciel interne du ministère de la Justice destiné au service de l'application des peines. Il sert à générer des procès-verbaux d'audition, faire le lien avec le service pénitentiaire ou éditer des jugements. Au-delà de ces pannes, dans ce contexte, ce sont les ambitions numériques du ministère de la Justice qui interrogent. Début janvier, Éric Dupond-Moretti a présenté son plan d'action pour la justice basée sur les états généraux du secteur. Il a notamment affiché une ambition zéro papier d'ici 2027, ainsi que le lancement d'une application du ministère pour se rapprocher des citoyens. Mais devant l'état numérique du secteur, Samra Lambert, secrétaire permanente du syndicat de la magistrature, émet quelques doutes.
Ça nous pose beaucoup de questions parce que quand on nous annonce un plan zéro papier, on doute de la connaissance par le ministre des enjeux de son propre ministère. Quand on voit l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés l'ensemble des agents au quotidien. Il faut savoir que dans les juridictions françaises, on travaille comme on travaillerait nulle part ailleurs, avec parfois des journées entières sans téléphone, sans informatique. Je ne sais pas où ailleurs on peut fonctionner comme ça. Là encore, le problème, ce n'est pas tant la façon dont nous, magistrats, fonctionnaires, agents, on va travailler au quotidien, c'est l'impact qu'il y a derrière pour le justiciable à qui on va faire croire que bientôt, il va avoir accès à une interface où il pourra gérer son dossier à distance, de façon totalement numérisée, alors que l'état actuel de nos juridictions, c'est qu'on peut passer plusieurs jours sans téléphone, y compris dans les services de permanence.
Des propos recueillis par Baptiste Madinier.
Un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.
Il va être présenté ce matin par Elisabeth Borne, accompagnée notamment du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye et de la ministre chargée de l'égalité des chances, Isabelle Rome. Ce plan, prévu pour les années 2023 à 2026, a pour objectif, je cite, « de mieux éduquer et former, de mieux sanctionner les auteurs de propos ou d'actes inacceptables et enfin, de toujours mieux accompagner les victimes ».
La France s'est inclinée hier face au Danemark.
L'équipe de France de handball n'a pas su venir à bout de leur meilleur ennemi danois en finale de la Coupe du Monde de handball. Malgré un début de première mi-temps compliquée, les Bleus étaient revenus à égalité en début de seconde période, avant de se laisser dépasser par l'agressivité des Danois. Une défaite 34 à 29 qui prive la France d'une 16e couronne mondiale.
Merci beaucoup Marion Torquebio pour le journal de la rédaction. Et puis nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Très bonne fête aux Martine et aux Bathilde.